J'ai été effectivement directeur de la DIST au CNRS, jusqu'à rester un petit peu dans le flou jusqu'à fin octobre, où je suis donc à la communauté d'université qui s'appelle Sorbonne Paris Cité. Donc pour ceux qui connaissent un peu le secteur, c'est 3, 5, 7, 13, plus Sciences Po, l'IPGP, l'école d'études, d'autres études en santé publique et l'INALCO. De recherche aussi. J'ai pas de transparent parce que j'ai rien à vendre. J'ai simplement fait un discours un peu particulier qui correspond en fait à des observations que je fais depuis un certain temps, de l'auto-observation en quelque sorte, c'est de nos communautés de professionnels de l'IST et de chercheurs et aussi de publishers, j'en reviendrai à un publisher particulier. Quand j'ai proposé à Marie le titre « Nous sommes tous conservateurs », certains plus que d'autres, elle m'a dit « Ton truc, c'est pas, tu vas faire fuir les gens, c'est de la politique de base, je sais pas quoi ». Alors moi, j'ai envie de dire, ma première réaction, c'était de dire « Qu'est-ce qu'on fait depuis ce matin et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à demain si ce n'est de la politique ?» C'est bien là que ça se fait, la politique. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. La manière dont on vit ensemble et dont on régule nos systèmes soit conforme à ce qu'on a envie de faire. Donc oui, c'est complètement de la politique. Alors, ensuite... Une observation, je dis pourquoi conservateur ? Alors, c'est pas une blague par rapport. C'est vraiment conservateur au sens commun du terme et non pas au sens du statut des gens qui s'occupent des bibliothèques, soyons clairs. Alors, si on regarde, grosso modo, et ça a été dit à plusieurs reprises, on a trois grands acteurs. Les bibliothèques professionnelles de l'IST ont l'air d'être au cœur du système. En fait, ceux qui sont vraiment au cœur sont les chercheurs. Donc, il y a un troisième qui est le publisher, comme le dit Marie ou comme ça. Alors. Ces trois familles sont-elles, de toute manière, d'une certaine façon, chacune à sa manière, plutôt conservatrices? Alors la réponse est oui. Alors oui, bien sûr, on est tous conservateurs à un moment ou à un autre. Alors conservateur, mais je me soigne. Pour revenir sur le cas du chercheur, on fait beaucoup du chercheur bashing quand on parle d'open access, en disant oui, mais tant qu'ils sont attachés à leur évaluation fétichiste à partir des grandes revues prestigieuses, on s'en sortira pas. Tant que les chercheurs n'ont pas bougé, on s'en sortira pas. Ouais, d'accord. Bon, ça y est, c'est dit, ça a été redit ce matin, on le redira encore cet après-midi, demain, etc. C'est un des enjeux d'observation particulièrement originale. Moi, je pense qu'il y en a une qui est un petit peu plus subtile, et qui, en fait, et là, on l'est vraiment tous. Quand on dit, est-ce qu'on met le pré-print, le post-print, le post-post-print, la version machin, etc., est-ce qu'il faut que la pagination... Eh bien, on est encore à l'ère Gutenberg, là. On est complètement resté dans l'ancien système. On fait comme si on avait le principal moyen de communiquer l'article qui est mis dans un fascicule, du numéro, d'une revue, qui a son ISSN, et c'est cet objet intangible qui est vraiment par là que passe la communication scientifique. On sait bien qu'à l'ère du numérique, la communication scientifique, elle a complètement craqué cette chose-là. Et si ces objets existent encore aujourd'hui, c'est parce qu'on est conservateur. Au premier chef, bien sûr, je n'ose pas le dire, les éditeurs, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent, ils réussissent à vendre ça, ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or, quand même. Donc là, c'est assez simple comme position. Leur position, de ce point de vue-là, est très très claire, et très simple, plutôt. Même s'il n'est pas forcément très clair. Alors, c'est quand même un petit peu embêtant, parce que j'ai envie de dire, on perd du temps. Et on oublie que des tas de choses sont en train de se passer au cours de nos discussions. Alors, on a envie de dire, il y a une motivation un peu générique, c'est bah oui, mais c'est bien gentil, mais ça marche bien. Hein. On peut dire que l'évaluation, c'est pas parfait, ni l'évaluation du journal, ni l'évaluation par les pairs, pour les labos, pour les individus, pour les institutions, mais au moins on a un outil qui marche. Là, vous allez tout nous casser en faisant de l'open access dans tous les coins, on ne sait pas comment ça va marcher, non. Faites attention souvent, de la part des sociétés savantes le plus souvent, mais pas seulement, d'autres aussi, oh là là, faites attention, on ne sait pas ce que ça... Ouh. Alors, pourtant, ça marche, mais ça a été dit, ça marche quand même de plus en plus mal. Ça râle de partout, ça coûte de plus en plus cher. Il y a un élément qui n'a pas été dit du tout depuis ce matin, mais m'étonnant de la part d'une conseillère. L'augmentation des tarifs des big deals qui font que, au bout du compte, ça écrase le budget de bibliothèque, etc., que c'est qu'elles sont aussi là, et beaucoup, pour faire du service aux étudiants. Et là, est-ce qu'on n'a pas déjà, en partie, flingué le service aux étudiants et les manuels à jour et toutes ces choses-là qu'ils n'ont plus au portée de main? Alors moi, je viens du CNRS, alors, hein, c'est le truc... Là, maintenant, je suis dans une commu, je commence à connaître un petit peu quand même. Bah oui, la question des étudiants dans l'histoire est quand même une question absolument majeure, à mon avis. Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ça commence par enseignement supérieur. On est quand même là, pas uniquement pour faire avancer les connaissances, mais ration de gens cultivés, de gens machines. Et cela, s'ils n'ont pas les moyens et l'accès à l'information, c'est pas ça qui sert aux gamins qui sont en licence, hein, quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est un peu embêtant. Mais pendant ce temps-là, pourtant, les choses changent. Enfin, des choses arrivent, c'est pas forcément une chose qui change, encore que si. Les archives ouvertes, elles changent. Christine nous a parlé, Archive 1991, vous vous rendez compte, 23 ans, bientôt 25, c'est 24, 23. Et c'est plus tout à fait la même. Et c'est plus tout à fait la même. Je commence à faire partie des vieux, même au siècle dernier, avant que ça commence. Lalloué, l'idée vraiment, millénaire précédent, l'idée de Franck Lalloué était très précisément de faire un diagnostic un peu inquiet autour de Archive. Et puis de ses limitations aussi, il se dit, bien, il faut aussi qu'on ait nos outils, on ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, puis en plus ça n'est que monodisciplinaire, puis si on veut, il faudrait que ça évolue, etc., etc. Et il s'agissait bien de communication, vraiment dire petit à petit, c'est plus tout à fait ça. Alors bien sûr que Archive c'est toujours ça, bien sûr que ça sert à échanger des préprints. Mais un chercheur qui veut échanger des préprints, il ne va pas se... Aujourd'hui, ce n'est pas vrai, je n'ai pas trouvé un seul chercheur qui se documente en allant dans HAL. Il se documente en allant dans Scholar Google, s'il n'a pas son archive disciplinaire. Ici, il y a une archive disciplinaire parce qu'il est physicien, parce qu'il est biologiste, pas trop loin des thématiques du NIH, ou s'il est économiste, il va dans son archive disciplinaire et pas du tout dans son institutionnel. Il n'y a pas de chercheur dont le référentiel de travail quotidien soit son institution, c'est bien sa communauté scientifique. Donc, plateforme, ce n'est pas une archive ouverte. Plateforme, ce n'est pas une archive ouverte, à nouveau. Ce n'est même pas une archive ouverte, c'est une plateforme d'archives ouvertes. C'est plein d'archives ouvertes qui est dans un réseau d'archives ouvertes qui offre tout un tas de services dérivés qui, d'ailleurs, ont été, pour certains d'entre eux, pensés dès le départ. Pas moi, je ne me vante pas, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Donc, et puis, bah, ils arrivent en 2014, il ne faut pas être pressé, c'est tout, les choses arrivent. Donc ça a changé. Les archives ouvertes, ça n'est plus Archive, ce n'est pas vrai, c'est des tas d'autres choses, et des tas d'autres services et des tas d'autres positionnements. Alors, autour des archives ouvertes, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs, en quelque sorte, enfin nouveaux, ils ne sont pas des nouveaux. Alors, au départ, mais qui parlent vraiment avant, au départ, l'idée c'est le chercheur dépose, ce sont comme un chercheur qui s'en occupe, d'autres acteurs. D'ailleurs, il y en a un qui est informaticien dans le lot, donc c'est même un chercheur qui s'occupe du système. Ben là, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des informaticiens, puis il y a des documentalistes. Et puis, figurez-vous que là où il y a beaucoup de dépôts, des disciplines où c'est vraiment spontané, et il y en a en fait très très peu bibliothécaires qui... Et oui, ce sont des acteurs vrais du système, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors maintenant, des choses... Alors franchement, pour moi qui est bouriffante, et pour moi c'est un vrai changement, partiellement conservateur aussi, c'est les méga-journals. Si vous pensez à Plus One, qui a un ISSN, c'est marrant, le ISSN est un serial, normalement c'est une série. Une série qui donne un numéro toutes les 10 ou toutes les 30 secondes, c'est plus tout à fait un concept de journal pour moi. Donc pour moi, Plus One, ça a un réel en termes, c'est d'avoir un article figé qui est passé dans une forme de validation. Sans ça, tout le reste, archive ouverte, d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à une archive ouverte qu'à un journal, et infiniment plus. Et ça, on n'y pense pas vraiment. Sachez qu'au jour, comme à l'INRA, le journal le plus utilisé en termes de publication, c'est Plus One. Et ça va bientôt être, si dans 5 ans ou dans 10 ans. Il y avait en 2012 22 000 articles dans Plus One, quelque chose comme ça, je n'ai pas les chiffres 2013. Vous appelez ça un journal, c'est pas un journal. Qui peut feuilleter un objet de ce genre-là? Là, il y a un vrai changement. Alors, c'est que partiellement innovant, en quelque sorte. C'est toujours des articles qui sont dedans. Donc, en ce sens, de Gutenberg, dans une certaine mesure, c'est des PDF avec un début, une fin et des choses dans ce genre-là. Quelques liens de base actifs qui sont des citations, des choses dans ce genre-là, mais qui sont ailleurs. Mais c'est quand même, ça reste toujours un article. Là, on va parler d'un objet qui est différent. Hypothèse.org, en SHS. Les carnets de chercheurs, comme on dit. C'est de la communication entre chercheurs, à proprement parler. D'autres peuvent les lire. Ce ne sont pas des articles scientifiques. Ils n'ont pas été peer-reviewés individuellement. C'est simplement l'intérêt global du carnet analysé et évalué au bout d'un an, au bout de deux ans, au moment que ça attire effectivement beaucoup de monde, s'il y a un comité scientifique qui va valider le carnet tout entier. Mais par contre, la publication individuelle, je mets un truc ce matin sur mon carnet de recherche et la noter, ça, ce n'est pas reviewé individuellement. C'est une nouvelle forme. Et là, qui fait vraiment appel à proprement parler au numérique et à l'Internet, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas faire avec du papier, très très clairement. Les économistes, ils commencent qu'à carnet du tout, ni même de livres, ils font des working papers. Donc ils mettent des working papers, ça s'apparente un petit peu à une hypothèse si on veut, mais voilà, eux, ils sont dans leur univers, et l'article scientifique ou le livre viendra à un moment donné, mais ce ne sera pas vraiment l'objet de la communication, c'est le moment où on fige quelque chose, dans la grande conversation, comme aurait dit Guédon s'il avait pu être là, et la grande conversation, elle est mise en place pour faire de la communication entre chercheurs, de manière auto-organisée par les chercheurs, en l'occurrence. Alors, IPOL, Image Processing Online, allez tous, si vous ne le connaissez pas, allez voir cet objet-là. Image Processing Online, c'est une revue française, elle est internationale, elle est à l'ENS de Cachan, elle va probablement rejoindre Episcience, si je ne m'abuse, à un moment ou à un autre, ça va peut-être venir. IPOL, c'est un objet absolument extraordinaire, c'est innommable, dire-nous à cet objet-là. Ça ressemble à un journal, c'est-à-dire qu'il y a un article. Image Processing, c'est algorithme d'analyse d'image. C'est assez pointu comme discipline, moi je ne la connais pas de près, comme dit l'autre, c'est quand même pas... Qu'est-ce qu'on publie là-dedans? Des algorithmes, ça veut dire écrire quelques paragraphes qui expliquent comment fonctionne l'algorithme, comment il se positionne par rapport à d'autres, en quoi il est différent des autres, en quoi il enrichit sur telle et telle dimension. Une fois qu'on a dit ça, avant sur papier, on pouvait écrire des manières d'écrire des algorithmes assez simples, on pouvait même filer le programme qu'on pouvait retaper si on voulait, ou se l'envoyer par la poste peut-être, avec une disquette. Il dit, maintenant, l'algorithme, non seulement il est décrit, il est écrit, mais il est présent, et on peut le faire fonctionner. Alors ça, c'est bien, parce qu'on va dire, là, on a publié non seulement quelque chose qui ressemble à un article, mais on a aussi publié un algorithme. Alors, non seulement on peut le faire fonctionner sur des données qui sont, sur des images qui sont présentes sur le site, dit, regardez, je vous dis, avec cette image-là, dans telle et telle condition, ça prend tant de temps et ça donne tel résultat. Donc il y a une banque d'images, les chances que vous en ayez, puisque vous êtes intéressé à ce genre de choses. Et bien vous pouvez uploader votre image pour le faire intégrer à la base de données centralisée, faire tourner l'algorithme dessus, ceci venant enrichir en quelque sorte l'article. L'article qui lui-même, au bout du compte, n'est plus qu'un nœud dans le réseau de la base de données, les logs. Donc vous avez rajouté un log, vous avez rajouté une image. Vous pouvez même, du coup, après, commencer d'aller améliorer l'algorithme et de refaire le système. Donc, un article scientifique, ça devient à la fois... Un journal, pardon, c'est à la fois des articles scientifiques, c'est à la fois une base de données avec dedans des images, leur traitement, les résultats, des logs qui correspondent aux choses en question, les algorithmes même, et en plus, c'est un espace de travail collaboratif. Moi, si ça s'appelle qu'on dit enhance ou des choses dans ce genre-là, légèrement amélioré quand même. C'est-à-dire que la partie journal, elle commence à être très, très particulière. Alors, dans le même genre, et là je ne connais pas très très bien, un polymath, il y a un problème de maths qui est vachement... On s'y met à plusieurs, à 10, à 100, à 1000 mathématiciens. C'est ouvert à tous, mathématiciens, vous ne resterez pas très longtemps. Et puis, on réussit à résoudre des problèmes comme ça, et ces problèmes résolus, c'est une publication, elle est là. Un ISSN, non. Et il a fallu faire un tout petit peu d'informatique, c'est rien du tout. Donc c'est un objet de communication entre chercheurs, c'est un endroit où on travaille, où les résultats sont inclus dans l'espace de travail. Donc, après, je pourrais continuer à l'envi, j'allais dire. Alors, il y a un modèle qui est un peu plus ancien, et qui lui est presque calqué sur le papier, mais qui devient vraiment proprement parlé innovateur, c'est l'astronomie. Alors l'astronomie, c'est un monde à part, les astronomes se connaissent tous, ils ont très peu de revues, ils ne font que de l'astronomie, très facile à repérer. Ils ont des données d'observation et non pas des données expérimentales. Ils en ont quelques-unes, des données expérimentales, mais c'est quand même très très peu de choses. Gérer leurs données depuis plusieurs siècles. Donc maintenant, ils sont contents, c'est bien informatisé depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est intégré avec les publications. Parce que quand on retourne aux anciennes données, c'est quand même très très difficile. Intégré avec les publications. Leurs publications sont assez classiques, au bout du compte. C'est des articles presque comme les autres, j'allais dire. Sauf que quand vous parlez d'un objet, vous cliquez sur l'objet en question et vous avez accès à toutes les données sur l'objet. Et quand vous êtes dans l'espace des données, si vous voulez savoir si quelque chose a été publié sur un objet, vous pouvez aller aux publications. Donc vous avez un système qui est intégré entre les deux. Voilà, un objet particulier. Ce travail-là, il n'est pas fait par les publishers. Le travail-là, il est fait par des gens spéciaux. Un nouveau métier, les data scientists ou data librarian, on dit en patagon international. Donc ils sont des gens qui sont à la fois un peu informaticiens, pas mal documents. Si vous les exportez pour aller faire de la biologie végétale, il va falloir les former pendant un an ou deux. Donc c'est des métiers un petit peu difficiles quand même. Alors, je pourrais continuer à en citer plein d'autres. Alors après, Alors ça a été cité tout à l'heure, je vais arrêter là, les exemples. Économique qui change avec le reste qui ne change pas, j'ai dit en quelque sorte, ou du pur changement de modèle économique, vous avez le modèle freemium qui est proposé par revue.org. Donc, il y a, ça a été dit, ça a été évoqué ce matin, je crois bien. Il y a Pirgi, par exemple, je ne sais pas si ça marchera ou pas, c'est dit, bah, écoutez, si tous les chercheurs du monde me donnaient $100, eh ben, je pourrais publier un article par an pour chaque chercheur. J'y arriverai. Alors, avec le flux, on dit, une fois que j'aurai conquis le monde, il ne me restera plus de soucis, parce qu'une fois que j'ai conquis le monde, il y a ceux qui partent en retraite et il y a les nouveaux. Donc, si tous les nouveaux me donnent $100, ça finira par marcher. C'est du crowdfunding. Mais c'est des idées. Moi, je suis pas contre les idées. Vous avez Copernicus a été évoqué. Copernicus, c'est intéressant. Avec je ne sais pas, pareil, si c'est bien ou pas, mais ce sont des idées aussi, des innovations. On a parlé d'open peer review autour de ça. Ça peut être partiellement l'open peer review, peut être complètement l'open. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de payeuse, en l'occurrence, eux, c'est $1,300. Ils disent, quand vous soumettez, ce sera déjà... Ce n'est pas forcément une mauvaise idée en tant que telle, parce que ça, la somme est absolue. S'il y a des waivers, s'il y a des sommes, et on est immédiatement rendu public. Je ferai un tout petit point. Publier, ça veut dire rendre public, mais ça, c'est le premier volet. Et après, il y a rendre visible. Il y a quand même deux opérations. Quand je mets des trucs sur mon site web perso, qui n'existe pas en l'occurrence, vous pouvez le chercher, mais à supposer, je l'aurais publié et rendu public, mais personne s'en sera aperçu, sauf ceux que j'aurais prévenus. Hein. Éventuellement. Au tréfonds des rankings. Et à partir de là, si votre article comporte énormément de données et de grande taille, le reviewing sera plus cher. La partie finale de l'édition, si votre article est conforme à la maquette, ben on ne vous demandera pas de payer le travail final. Le tarif est indiqué. Non. Si en plus il est déjà écrit en bon anglais, c'est pareil. De polir la langue, et ben il faudra payer. Donc c'est quand même une expérience assez intéressante en tant que telle. Alors, je vais revenir deux secondes sur Scope 3. Sur le fond d'histoire, je ne veux pas rediscuter de l'intelligence, du modèle économique ou des choses comme ça, mais faire une remarque qui est quand même, à mon avis, relativement importante et qui est liée aussi aux épijournaux, qui est justement cette idée de séparation de la publication en deux temps. Scope 3, quand c'est présenté par nos amis du CERN, c'est absolument extraordinaire, ils vous disent, bah oui, on a un pic de citations au moment de la publication. Alors, quand on dit les choses comme ça, il y a quand même une espèce de paradoxe. Ça veut dire qu'on était très cité avant d'être publié. Ben oui, en l'occurrence. Et donc, Scope 3, c'est l'achat d'un service auprès de publishers, qui est la publication dans le deuxième sens du terme, c'est-à-dire le fait de que ça se passe. Quelqu'un, un intermédiaire, a mis un pointeur. Donc, vous voyez, là, c'est juste des exemples. Hein. On pourrait en mettre d'autres, mais bon. Donc, il se passe tout un tas de choses. Et là, nous, on est en train de parler comme si on était toujours... Et je vais finir par une remarque, puisqu'il est tard. Alors, moi, j'ai été directeur de la DIST. Hein. Vous imaginez bien que les gens d'Elsevier, ils avaient mon numéro de téléphone portable tout de suite. Et ils ne savent pas où j'habite de manière privée, mais ils sachent quand même. Et donc, j'ai de nombreux contacts avec eux non sollicités, ou parfois sollicités, ça peut arriver, mais enfin, en fait, non. Franchement, non. Et de quoi est-ce qu'ils me parlent, ces gens-là d'Elsevier, maintenant, là, depuis un an et demi ou deux, quand ils viennent me voir? Est-ce qu'ils me parlent ou de négociations d'abonnement, de choses comme ça? En négociation d'abonnement, ils ne sont pas idiots, ils voient que je ne suis plus dans la boucle, donc ils ne m'en parlent plus. Mais quand même, ils ne me parlent plus du tout de journaux. Plus du tout. Et d'ailleurs, un jour, j'ai demandé au lobbyiste, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'Elsevier en France, j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous avez acheté comme éditeur ou comme journaux depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Sa réponse a été, bah, aucun, c'est fini, on n'achète plus ces trucs-là. Et au départ, la réponse était ça. Alors, moi, j'ai regardé d'Elsevier ces derniers mois. Il y a quatre thèmes. Il y a Pure. Pure and Research Information System. C'est une petite boîte qui s'est montée au Danemark, qui a été développée sur fonds publics, mais sous forme de start-up, qui était destinée à mettre en place, pour ceux qui connaissent, ce genre de labintel de l'ensemble de la recherche publique danoise. Ça s'est mis en place, la recherche publique d'Elsevier l'a racheté. Donc, toute information danoise appartient à Elsevier aujourd'hui, accessoirement. Et c'est un excellent produit. Hein. C'est pas eux qui l'ont fait. Comme ça. Mais au moins, ils savent bien choisir. Deuxième sujet, Mendeley, évidemment. Réseaux sociaux, avec de l'IST dedans. Mendeley, Elsevier. Troisième sujet, Saival, les outils d'analyse bibliométrique. Fait, cela dit en passant, alors les deux premières, c'était des startups qu'ils ont rachetées. Saival, c'est un développement interne, semi-interne, puisqu'il est fait en proche avec l'université de Leiden. Le CWTS, la technologie. Et enfin, sur les questions, et tu en as parlé là dans le cadre de la négociation, mais d'une manière générale, du text and data mining. Donc c'est ces quatre sujets-là dont il me parle. Il ne me parle pas ni des articles ni des journaux. Alors évidemment, tout ceci est lié. Alors, une remarque assez importante, et c'est très lié à ce que Sandrine disait tout à l'heure. Et M. Key est allé voir Jean-Charles Pomerol il y a 2-3 ans. La même semaine, il était allé voir le président du CNRS. Alors, oui, ça a été dit tout à l'heure, c'est le patron d'Elsevier, pour la partie publication sur Elsevier. Très intéressant d'ailleurs, parce que nous, on a attendu Alain Fuchs assez longtemps, parce que c'était le soir, hein, et donc on a parlé de choses et d'autres pendant un certain temps. Il nous a recommandé un restaurant, pas très très loin de Tokyo, qui ne sert que 6 personnes. Donc, et grosso modo, ça me coûtait par personne 2 mois de mon salaire, quand même, hein, après avoir discuté. Ça vous donne une idée de la manière dont ça fonctionne dans ces boutiques-là. Ce qu'il a raconté, M. Key, exactement ce que disait Jacques, hein. Il presse le citron en ce moment. C'est-à-dire qu'ils savent que bientôt, ils n'en vendront plus. Ils le savent. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir ces clauses sur 5 ans. Leur véritable asset, comme on dit, la vraie valeur, c'est le corpus lui-même. Et le corpus, c'est la manière de le valoriser. Et tout ce dont on parle, les 4 objets, c'est bien de la valorisation de corpus. C'est de l'outillage qu'on met autour. Et c'est ça, c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires. Mais ils le disent explicitement. Ils n'écrivent pas sur Internet, mais ils le disent quand ils ont affaire à des interlocuteurs. C'est complètement clair. Donc voilà, c'était juste quelques réflexions. Alors j'avais mis à la fin ce qu'on lit, ceux qui ont lu ce que j'avais passé à Marie. J'ai fait une citation. Le rôle de l'État est d'être un facilitateur et de garantir un écosystème favorable à l'innovation. Elle a enlevé le smiley, j'en avais mis un à la fin. Parce qu'en fait, cette phrase qui est issue du projet de loi de santé de juin 2014, donc tout de suite, je vous garantis que je ne lis pas ce genre de projet normalement, mais au moment où je voulais écrire ça, j'ai une dépêche qui m'est arrivée sur la tronche, il y avait juste cette phrase qui était écrite, je me dis c'est parfait, je la remets là. En termes de politique, et alors là de politique active, institutionnelle, encourager les initiatives, bien évidemment, il faut vraiment faire ça, à partir du moment où elles ne paraissent pas trop idiotes, bien sûr. Mais encourager les initiatives, ce n'est pas simplement donner une petite tape dans le dos en disant c'est bien, c'est très très bien, continuez, c'est une excellente idée. Chose qu'on a un peu tendance à faire dans les institutions, voire au niveau de l'État. C'est mettre pour de vrai en place des infrastructures qui ont besoin de se préoccuper des problèmes de prise de courant ou d'alimentation en froid. Dire, on a de la chance, on a HAL, on a le CCSD, et coup de balle, on avait déjà une infrastructure matérielle qui était sur place. Ça aide bien quand même. Ensuite, il y a les infrastructures des niveaux au-dessus, c'est de dire il faut aussi qu'on ait les couches logicielles qui permettent d'aller faire des développements sans qu'on soit obligé de tout réécrire depuis le début. Et donc, il est indispensable qu'on mette en place ces infrastructures et qu'on le pense en ces termes-là. Chose qui n'est pas fait. On a signé un bel accord à l'Académie des sciences pour dire les archives ouvertes, c'est bien, l'open access, c'est bien, HAL, c'est notre archive nationale, les archives institutionnelles, c'est bien aussi, ça versera dans HAL, etc. Bon. Avec quels moyens ? Démerdez-vous. Voilà, je voulais terminer sur cette note très optimiste.